Bonsoir à tous. J'espère ne pas vous mener à la sieste ce soir. Et mes collègues se chargeront de vous réveiller dans 20 minutes. Alors, dire ou ne pas dire l'évangile, quelle liberté face à la laïcité? Alors, je me propose d'identifier, pour ce qui concerne la France, quatre éléments qui favorisent à l'heure actuelle le flou concernant la teneur de notre liberté de religion dans notre France qui est laïque. Et puis ensuite, nous clarifierons ensemble ce qu'est la laïcité, la liberté de religion, sous un angle juridique, avec aussi quelques remarques historiques. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par identifier quatre éléments qui favorisent le flou dans notre compréhension de la liberté de religion, pour les chrétiens en France en particulier, et dans notre pays laïque. Ça nous permettra d'écarter déjà quelques pièges. Alors d'abord, il y a une confusion entre une approche qui peut s'appeler sociologique et une approche juridique. C'est vrai que sur le plan sociologique, nous sommes dans une France qui est une société sécularisée. Alors depuis la Révolution française, l'abolition des ordres et puis la loi de 1905, la religion n'est plus un critère dominant d'organisation de la société et elle est passée sous un second plan. Il y a eu le développement de l'athéisme ou d'une certaine indifférence religieuse en France. Et on peut constater aujourd'hui que la société française a une réserve un moins bon accueil à l'expression des religions dans l'espace public notamment. Alors c'est vrai que dans cette société sécularisée, le grand risque pour les croyants, c'est celui de l'effet dissuasif de leur environnement. On va douter sur nos droits, il y a un effet d'intimidation, et l'effet de la pensée unique, le rejet de toutes les opinions qui peuvent être minoritaires. Et finalement, cette société sécularisée nous fait croire que nous avons perdu nos droits. Et cependant, le fait que sociologiquement la société soit sécularisée et que la majorité des personnes ne manifestent que peu d'intérêt pour la croyance religieuse ou son expression publique, ne signifie pas que juridiquement, la minorité n'a pas le droit de s'exprimer. Alors, en dépit d'un environnement sécularisé, sur le plan juridique, les individus que vous êtes et le groupe que nous formons aujourd'hui disposent bien du droit d'exprimer ses convictions en public et aussi dans la sphère d'influence publique. Et en tant que minorité numérique, nous disposons des mêmes droits que la majorité numérique. Et dans ce contexte sociologique, nous avons les mêmes droits que nous pouvons exercer, peut-être avec plus d'efforts, mais nos droits sont garantis. Donc c'est un premier élément à vraiment mettre de côté. Un deuxième élément qui me semble favoriser le flou dans la compréhension de la liberté de religion aujourd'hui, c'est l'approche médiatique. Alors l'approche médiatique, elle est souvent faussée, elle est souvent instrumentalisée, et finalement elle brouille l'opinion publique. Il y a des polémiques, il y a des réactions exagérées, des petites phrases qui finalement n'aident rarement à comprendre les situations sur le plan juridique et surtout qui véhiculent beaucoup de fausses idées. Ainsi qu'il s'agisse du burkini l'été dernier, de l'affaire de la députée de Mayotte qui avait un voile sur ses affiches de campagne en 2017, des crèches de Noël l'hiver dernier aussi, des menus de la cantine scolaire. Dans les médias, vous allez trouver davantage de réactions à chaud que de réelles analyses, davantage de buzz que de clés de compréhension. Et il faut arriver à faire le tri dans tout ça. Et particulièrement pour les chrétiens, je constate pour ma part une certaine difficulté à raisonner en termes de liberté de religion, du moins en France. Parce qu'en effet, la majorité des affaires ou des polémiques qui concernent la laïcité visent aujourd'hui les musulmans et ont pourtant un impact direct sur les droits de tous et notamment ceux des chrétiens. Car en effet, vous connaissez ce petit adage, qui peut le plus peut le moins. Et l'islam contraint ses fidèles à une grande visibilité, une visibilité forte de leurs opinions religieuses, et notamment dans l'espace public. Et cette visibilité vient aujourd'hui, en quelque sorte, tester le pacte laïque et questionner les libertés. Alors, en termes juridiques, les individus ont tous les mêmes droits. Et la laïcité peut gérer une diversité religieuse nouvelle. Mais en termes de société, il est parfois plus complexe d'accepter une certaine diversité, une société pluraliste. Et il me semble sur ce plan que les chrétiens vivent parfois une certaine tension intérieure. Attention, accepter que le musulman, l'athée, le catholique, le syndicaliste a les mêmes droits que moi ne veut pas dire que j'adhère à ses convictions. Cela signifie que je peux entrer en débat, que je peux même défendre sa liberté parce qu'elle est la même pour tous et que je peux respecter l'autre tout en gardant mes propres convictions. Je peux même effectivement défendre son droit, car finalement, sa liberté vaut autant que la mienne. Et que les décisions législatives, jurisprudentielles, administratives, qui seront prises à son égard, auront un impact aussi sur mes droits. Ainsi, il m'est possible de défendre la liberté de tous, de tous mes prochains, et aussi de défendre l'état de droit, le respect du droit pour tous. Un troisième élément qui me semble brouiller les pistes, c'est cette approche souvent politique et idéologique de la laïcité, et qui est parfois éloignée du droit. En effet, il y a plusieurs conceptions idéologiques de la laïcité, idéologiques ou intellectuelles, et celles-ci peuvent différer de la conception juridique de celle du droit qui s'applique aujourd'hui. Et ce régime est plutôt satisfaisant. Alors, je me suis amusée, lors de la campagne présidentielle de 2017, un petit comparatif entre les conceptions de la laïcité qui étaient véhiculées dans le débat qui a précédé l'adoption de la loi de 1905 et les postures politiques de nos candidats de 2017. Et on voit ressurgir les mêmes conceptions. Et ça va vous montrer les différentes conceptions qu'on peut entendre dans le débat politique et qui ne sont pas forcément les conceptions juridiques. Il y a une conception qu'on peut appeler anti-religieuse, anticléricale, à l'époque de 1905, ou laïciste. C'est la pensée que l'État est lui-même athée et que les religions sont écartées de la sphère publique. À l'époque 1905, c'était Maurice Allard, député socialiste. Et voilà, très schématiquement, en 2017, c'était Monsieur Mélenchon, France Insoumise. Il y a une conception gallicane. L'État exerce un contrôle sur les cultes. Et elle est très focalisée sur le vêtement, qui est considéré comme une manifestation prosélyte. En 1905, c'était Monsieur Émile Combes, radical, bloc des gauches. En 2017, c'était plutôt Monsieur François Fillon, les Républicains, avec des projets de loi qui visaient à contrôler de manière ferme les associations culturelles. Il y a ensuite la conception séparatiste. L'État est neutre quant au culte, et les cultes et les religions sont séparés de l'État. C'est ce qu'on appelle la conception de la laïcité, dite libérale, dans le sens de liberté, déportée par Aristide Briand, rapporteur de la loi en 1905, et Ferdinand Buisson. Et c'est messieurs plutôt Benoît Hamon du PS et Emmanuel Macron En Marche, qui portaient cette vision pendant la campagne. Et puis, on a eu une nouvelle vision aussi, qui n'existait pas en 1905, mais qu'on peut appeler conception identitaire de la laïcité. Laïcité serait une neutralité ciblée, non pas sur l'État, mais sur certains individus issus de minorités, au motif que la France aurait des liens privilégiés avec l'Église catholique, et donc qu'on exigerait une neutralité de ceux qui ne rentrent pas dans ce rang. Vous imaginez bien qui représentait cela en 2017, Madame Marine Le Pen du BFN. Pour vous montrer que dans le débat politique, on va entendre plusieurs conceptions de la laïcité qui ne sont pas forcément des conceptions juridiques du droit applicable aujourd'hui. Car, contrairement à plusieurs de ces conceptions idéologiques, c'est bien la laïcité dite libérale, de liberté, de séparation, portée par Aristide Briand, qui a triomphé en 1905. Et donc c'était une loi d'apaisement et non de contrôle des cultes. Et qui ne visait pas à réduire leur place dans l'espace public. Donc notre régime juridique ne s'inscrit pas contre les religions, mais il veut préserver leur exercice paisible dans la limite de l'ordre public et des libertés d'autrui. Et aujourd'hui, c'est surtout ce discours humaniste ou laïciste qui instrumentalise souvent la loi de 1905 et nous fait croire que la laïcité interdit l'expression des convictions dans l'espace public, ou que l'État a un rôle émancipateur des citoyens pour les faire sortir de cette vieille religion. Donc attention à tout ce discours politique qui n'est pas toujours justifié. Et puis enfin, quatrième facteur de flou, c'est la complexité du régime juridique de la laïcité. Effectivement, on a une loi, on a des dérogations, on a des exceptions, on a des régimes dérogatoires territorialement, le concordat, les territoires d'outre-mer avec les décrets Mandel, des exceptions à la loi 1905, la multiplication de chartes de la laïcité dans différents domaines, et un côté technique qui n'est pas négligeable et qui parfois empêche de pouvoir appréhender les situations. Mais si on écarte ces facteurs de flou, on peut en venir à une vision juridique et historique de la laïcité qui nous permet de clarifier le tableau. Alors, clarifions le tableau d'abord en vous donnant quelques remarques historiques pour donner un peu de relief. Alors, on attache souvent la laïcité française à cette loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est vrai que dans son contexte immédiat, en 1905, elle a pu entériner une séparation institutionnelle de l'État et des cultes. Et ça implique l'absence de reconnaissance des cultes, de subventions aux cultes et de salaires aux ministres du culte, mais aussi la garantie de la liberté de culte pour tous, ce qui n'était pas forcément le cas avant 1905, y compris aussi dans les lieux fermés par le système des aumôneries. Et cette loi de 1905, si vous avez le loisir de la lire pour vous permettre de faire une meilleure sieste, elle décrit surtout le régime des associations cultuelles, elle traite des édifices cultuels, mais elle ne définit pas la laïcité en tant que telle. Elle en décrit les effets. Et cette loi n'est pas venue comme ça, out of nowhere. Elle a été précédée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a reconnu l'égalité de tous devant la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, lit-on, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et puis elle a parachevé, justement, la séparation de l'État français avec l'Église catholique, qui avant tenait la majorité des services publics de l'État français. Et cette loi a été accueillie avec grande joie par ceux qui ne se réclamaient pas du culte catholique, notamment les protestants et les juifs. Parce que mieux qu'un simple régime de tolérance des autres religions que catholiques, la loi de 1905 a permis l'émergence d'un régime vraiment de liberté religieuse pour tous en France, et elle a placé à égale distance les cultes par rapport à l'État. Et elle reste le symbole donc de la laïcité française, certes, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, elle est complétée par un contexte juridique beaucoup plus vaste. On ne peut pas s'arrêter à 1905. Il faut prendre en compte deux éléments de développement historique importants. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Vichy. Il y a les sources, il y a la beauté du cadre, mais il y a aussi le souvenir du régime de Vichy. Et pendant ce régime, il faut savoir que la laïcité avait été largement remise en cause, et notamment dans l'enseignement, avec un retour de l'Église catholique sur dans le cadre de l'enseignement. Il faut savoir que de cet épisode sombre de Vichy et de cette remise en cause de la laïcité, il en est ressorti en 1946 la constitutionnalisation du principe de laïcité. C'est-à-dire qu'il est vraiment rentré dans notre constitution et ne pouvait pas être simplement rayé par une abrogation de loi. Et nos constitutions de 46 et de 58 proclament effectivement que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et dans cette suite de 1946, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir qu'afin d'endiguer tous les risques de retour de totalitarisme, eh bien, il y a eu les grandes conventions internationales et européennes qui ont vu le jour au sujet des droits de l'homme, donc au niveau de l'ONU et puis au niveau du Conseil de l'Europe, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1950. Et aujourd'hui, ce sont ces conventions qui définissent le plus précisément ce qu'est la liberté de religion. Et donc notre laïcité française, souvent on dit voilà, c'est notre exception, mais en fait elle intègre ces textes qui sont européens et internationaux, qui viennent vraiment définir la liberté de religion. Et effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, ces textes, ces grandes conventions internationales ont permis de restaurer des équilibres et des équilibres au niveau des droits de l'homme et de la protection des individus face aux États totalitaires. Et ces équilibres sont aujourd'hui fragiles au XXIe siècle, à l'épreuve de la mondialisation, à l'épreuve d'une nouvelle diversité religieuse en Europe et en France. Et ils sont chahutés par le populisme, le nationalisme ou le laïcisme. Mais il me semble que ces équilibres doivent être préservés pour qu'il y ait un régime de liberté dans la diversité, pour permettre un réel pluralisme d'exister et une réelle paix civile également. Alors, sous l'angle juridique maintenant, je vais essayer d'être schématique, mais pour vous représenter correctement la laïcité, vous pouvez imaginer un tabouret. Parfois, les musiciens ont des tabourets, mais il n'y en a pas là. Un tabouret à trois pieds. Vous êtes d'accord avec moi, pour que le tabouret soit bien équilibré, il faut que les pieds soient exactement de même taille. Eh bien, la laïcité, c'est un peu ça. C'est un équilibre qui doit être soutenu par trois piliers de même consistance. Alors, le premier pilier, ça c'est vraiment important, c'est la liberté de conscience, de pensée et de religion. Et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme l'a défini de manière précise, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de changer de religion, le droit de manifester sa religion en public ou en privé, individuellement ou collectivement, c'est le droit d'enseigner sa religion, y compris à ses enfants. La liberté intérieure est totale et la liberté de manifestation extérieure, elle, peut être restreinte pour des motifs d'ordre public ou pour respecter la liberté des autres dans un souci d'équilibre. Et le deuxième pilier, c'est celui de la neutralité. La neutralité, mais pas celle de n'importe qui, celle de l'État, neutralité religieuse de l'État. L'État, c'est les collectivités territoriales, les agents publics, les services publics. Et donc, cette neutralité, c'est la séparation de l'État et des cultes aussi. L'absence de religion d'État, de lien d'intérêt ou de préférence avec un culte. Et le troisième pilier, c'est l'égalité. L'égalité devant la loi, sans distinction de religion. Et cette égalité est la garantie du pluralisme. Et elle implique l'absence, évidemment, de toute discrimination en fonction de la religion. Alors, l'équilibre est atteint lorsque les trois pieds sont d'égale importance. Mais par exemple, la revendication laïciste, qui vise à dire que l'obligation de neutralité religieuse ne pèse pas que sur l'État, mais aussi sur la société civile, eh bien, elle provoque un déséquilibre. Ce ne sont pas les individus ou la société qui est laïque finalement, c'est la République qui est laïque. Et des exemples concrets, c'est le fait que les usagers des services publics sont, eux, libres de manifester leurs convictions, par exemple par un signe. Voilà, un curé en soutane ou une femme voilée peut tout à fait se rendre à l'hôpital, peut aller au bureau de vote en portant ses signes religieux. Ils peuvent aller à un parc ou sur une plage. Et de même, l'espace public n'est pas neutre de convictions. Et on peut tout à fait organiser des manifestations en plein air, y compris pour les églises, et distribuer des tracts, et c'est ça le pluralisme. Ainsi, si on insiste sur la neutralité et qu'on la fait sortir de sa zone, ce qui concerne donc l'État, eh bien, la laïcité ne sera pas respectée, il y aura un déséquilibre. Et de même, si on réduit l'égalité, si on accorde plus de droits à une certaine religion, ou si on prive certains croyants de certains droits de manière ciblée, l'équilibre n'est plus atteint. Par exemple, quand on vise les chrétiens évangéliques ou les musulmans pour les empêcher de construire des lieux de culte, en refusant des permis de construire pour des motifs illégaux, ou alors avec des exigences superflues, eh bien, on atteint à l'égalité et on atteint à l'équilibre. Et enfin, l'équilibre serait aussi rompu si on donnait trop de liberté, au risque de mettre en péril l'ordre public, par exemple, ou les libertés d'autrui. Bon, c'était l'exemple des prières de rue, qui avaient été interdites pour des questions de liberté de circulation ou d'appropriation de l'espace public, ou alors celui des crèches de Noël, qui effectivement ne peuvent être disposées dans les bâtiments publics que s'il y a un usage local, un usage culturel, artistique, festif, mais qui ne peuvent pas être une reconnaissance d'un culte. Sinon, la neutralité et l'égalité seraient brisées. Liberté de religion, neutralité et égalité égale laïcité. Par conséquent, la laïcité, elle est davantage le garant de la liberté de religion qu'elle n'en serait l'adversaire. Et je dirais, mis à part la neutralité imposée aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien, la liberté reste toujours le principe et la limite, l'exception. Il faut donc voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et je dirais, s'agissant plus particulièrement de dire l'évangile au niveau de l'évangélisation, eh bien, la communication de notre opinion pour que quelqu'un y adhère, il est vraiment intéressant de relever que dans l'interprétation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne a admis à plusieurs reprises, en 93 et en 98, qu'il existait un droit à essayer de convaincre son prochain. Donc un droit à communiquer pour convaincre son prochain. Et elle poursuit, je cite, « Sans quoi, du reste, la liberté de changer de religion ou de conviction risquerait d'être lettre morte. Si vous ne pouvez pas avoir un marché libre de l'offre religieuse, eh bien personne ne pourra changer de religion. Vous imaginez, dans les pays totalitaires où il y a des lois anti-conversion, anti-prosélytisme, il est impossible de changer de religion. Et donc justement, il faut qu'il puisse y avoir un droit à essayer de convaincre son prochain. » Et donc ce droit ne s'exerce pas de manière générale, il peut être contraint, on n'a pas droit d'abuser de son droit. Et donc il faut respecter les libertés des autres, ne pas abuser de sa position dominante. Mais en tout cas, le croyant a un droit d'essayer de convaincre son prochain. Et dans notre cadre laïque, eh bien, l'évangélisation, qu'elle soit personnelle, d'amitié et privée, ou événementielle, publique, est tout à fait protégée. Et donc c'est davantage la manière dont nous allons communiquer l'évangile qui pourra faire l'objet de limites, si nous ne respectons pas le droit des autres. Et là, il faut juste utiliser le test du miroir. Est-ce que dans une situation identique, j'accepterais d'être évangélisée par quelqu'un d'autre, d'une autre religion ? Est-ce que je me sentirais ou est-ce que je serais agressée, abusée, forcée ? Et je crois que la sagesse et puis l'amour du prochain ne peuvent que nous préserver de cet abus de droit, de notre droit d'essayer de convaincre notre prochain. Alors, pour conclure, permettez-moi de vous encourager à dire l'Évangile, car la laïcité garantit la liberté de dire notre foi. Alors, avec sagesse, avec conscience de notre cadre juridique. C'est bien pour ça qu'on a fait cette campagne Libre de le dire, pour que vous ayez une certaine sécurité juridique, mais aussi avec l'audace de l'esprit et puis l'amour du prochain. Je crois que la laïcité n'est pas contre notre espérance et elle permet qu'on la dise avec liberté. Merci.